Cette conférence et celle qu'on a écoutée précédemment sont diffusées sur la web radio ondescourtes.fr et vous pourrez également les retrouver en podcast ainsi que toutes les interviews qu'on a menées hier avec des exposants et des artistes qui sont présents sur ce week-end. Charles Gauthier, donc, qui va nous parler de la pasigraphie dans un instant, c'est à toi. On pourra éventuellement prendre un petit temps à la fin pour des questions au micro.
Merci beaucoup, bonjour tout le monde. Merci donc au festival Figuré pour cette invitation. Merci aussi à mon amie Louise pour cette mise en relation. Alors, pour commencer, j'ai découvert le festival et j'ai vu que en lisant sur le site le nom du festival, j'ai lu Figuré, création graphique par et pour toutes et tous. Et je dois dire, pour commencer, que ce titre fait assez bien écho à mes propres recherches et à mes propres interrogations. Le graphisme, en effet, doit-il, peut-il s'adresser à tous? Par quels moyens et selon quels procédés? Pour quelles raisons? Et bien sûr, avec quelles limites? Telles sont les questions que je me pose dans le cadre de mes recherches sur la notion de pasigraphie. Qu'est-ce qu'une pasigraphie? Alors, le mot vient du grec et signifie « écriture pour tous ». Pasi signifie « pour tous » ou « à tous » et graphie signifie « écriture ». Une pasigraphie est donc étymologiquement une écriture qui s'adresse à tous. La question est de savoir ce que signifie finalement « s'adresser à tous », que signifie dans ce cas donc « à tous » et qu'est-ce que l'écriture exactement. Alors, pour répondre à ces questions, je vais procéder en trois temps. D'abord, je vais revenir sur les raisons pour lesquelles je me suis intéressé aux pasigraphies. Ensuite, je vais vous expliquer ce qu'est une pasigraphie exactement. Et enfin, je vais vous exposer ce qui me semble être les obstacles à la création d'une pasigraphie afin de voir si ces obstacles sont dépassables ou au contraire incontournables. Alors, d'où vient mon intérêt pour les pasigraphies ? Lorsque j'étais étudiant en graphisme, j'ai vite été passionné par l'histoire des écritures et plus généralement par tout ce qui touche aux signes visuels. Je savais qu'il existait de très nombreuses langues. Les linguistes estiment qu'il existe entre 5000 et 7000 langues. Et j'ai découvert qu'il existait aussi un très grand nombre de systèmes d'écriture. Cette passion pour les écritures persistant, j'ai décidé d'en faire l'objet de ma thèse de doctorat. Celle-ci portait plus précisément sur les relations qu'entretiennent l'écriture dans sa dimension graphique et le politique. J'avais remarqué que la langue ou les langues avaient fait l'objet de nombreuses recherches sur les liens qu'elles entretiennent avec le pouvoir, mais que les recherches portant spécifiquement sur l'écriture étaient plus rares, je veux dire concernant cette liaison précise entre l'écriture comme graphie et le politique. Mon idée était de ne pas étudier l'écrit comme un simple véhicule linguistique, mais plutôt d'étudier l'écriture comme image exhibée, pour reprendre l'expression de Roger Chartier. Je voulais savoir dans quelle mesure l'écriture pouvait avoir un pouvoir symbolique ou performatif, si elle pouvait servir à unir ou à exclure, si elle pouvait faire l'objet d'instrumentalisation par des mouvances diverses, et si elle avait déjà servi, comme la langue, une idéologie, une utopie, un projet politique. Pour ce faire, je me suis appuyé sur un corpus assez hybride, des expériences anthropologiques, comme celle de Claude Lévi-Strauss avec les Nambikwara, des moments historiques, comme l'imposition de l'alphabet latin en Turquie dans les années 1920, des discours, comme ceux qu'ont pu tenir diverses personnalités au XIXe et au XXe siècle à propos de l'écriture gothique, des conflits, comme celui qui opposa un linguiste russe qui s'appelait Nicolas Smar et Joseph Staline à propos de l'écriture cyrillique. Ou encore, plus récemment, ce qu'on peut appeler des conflits scripto-politiques, comme celui qui oppose encore aujourd'hui, par exemple, les Serbes et les Croates. Là, on a une photographie qui a été prise en 2013 dans une ville croate qui s'appelle Vukovar. Dans cette ville, un certain nombre de Croates n'acceptent pas la présence du cyrillique sur les panneaux biscripturaux, considérant que cette écriture est l'écriture des Serbes. Ils partagent une langue commune, qui est le serbo-croate, mais ont deux écritures différentes pour écrire donc cette langue commune. Mais aussi, donc, et j'en viens à mon sujet, la question des utopies. Le mot utopie signifie étymologiquement « en aucun lieu ». Et en effet, quelques personnalités ont tenté dans l'histoire de créer des écritures sans lieu, c'est-à-dire qui puissent, n'étant donc d'aucun lieu, être de partout ou pour partout. Je me suis donc attardé dans un chapitre de ma thèse sur ces tentatives. Et ce sont ces recherches que je poursuis aujourd'hui. Ces écritures utopiques sont-elles vraiment utopiques ? Sont-elles vraiment sans lieu ou vraiment de partout ? Et sont-elles vouées à demeurer des chimères ? Je voudrais donc revenir à la notion de pasigraphie et donc venir à la deuxième partie de mon intervention. Une pasigraphie, je le disais au début, signifie une écriture pour tous ou à tous. Il faut dire tout de suite qu'une écriture pour tous, c'est-à-dire une écriture universelle, est une écriture spécifique, singulière, et qu'il ne faut donc pas la confondre avec une écriture de langue déjà existante que l'on imposerait à tous. Je distingue à cet égard les écritures universalisées et les écritures universelles, qui sont donc les pasigraphies. Les premières, les écritures universalisées, sont des écritures déjà existantes que l'on impose au plus grand nombre par la force politique ou le pouvoir culturel. Notons que ces écritures ne sont qu'une manière de transcrire graphiquement telle ou telle langue particulière, sans rendre pour autant ce qui est écrit compréhensible à ceux qui ignorent la langue retranscrite. Les secondes, par contre, sont des systèmes de signes inventés qui doivent en théorie être accessibles, c'est-à-dire qui doivent pouvoir être lus et compris dans toutes les langues sans traduction, à tous les individus, quelle que soit leur nationalité ou leur langue. Alors je voudrais être plus précis. Si demain j'impose au monde entier l'alphabet latin, je n'invente en rien une écriture universelle. Je ne fais qu'imposer un système de retranscription des langues. Et si je lis, si par exemple je lis le mandarin grâce à l'alphabet latin, je suis incapable, moi qui ne parle pas le chinois, de comprendre ce que je lis. Je vois donc les limites d'une telle méthode, méthode qui fut pourtant souvent et étrangement envisagée. Ici, par exemple, j'ai mis le portrait de trois personnalités qui avaient, pour des raisons très différentes, voulu imposer l'alphabet latin, en quelque sorte, au monde. Nicolas Mars était un historien et linguiste russe, marxiste, qui pensait que le cyrillique était dépassé, réactionnaire, et qu'il fallait, à cet égard, le supprimer au profit de l'alphabet latin au nom précisément de l'universalisme ou plutôt de l'internationalisme et donc de la réconciliation par l'écriture des peuples du monde entier. Lu Xun, c'était un écrivain chinois qui pensait que l'écriture chinoise faisait du mal à son pays car elle l'empêchait d'entrer dans la modernité. Et donc il avait des mots très, très, très durs à l'égard de l'écriture chinoise qu'il voulait absolument proscrire. Et son projet n'a pas réussi, mais il s'est beaucoup battu pour que les choses se fassent ainsi. Et le dernier, c'était un Américain, Arthur Anderson Smith, qui lui voulait, pour d'autres raisons aussi, sans doute pour des raisons plus impérialistes, imposer, en Chine en tout cas, l'alphabet latin. Alors une pasigraphie, elle, c'est une chose différente, car elle s'émancipe des langues, car elle est une langue en soi, elle est une langue graphique. Alors d'où vient ce terme de pasigraphie ? Elle a été inventée par quelqu'un qui s'appelait Joseph de Mémieux en 1797. Joseph de Mémieux écrivit un livre au titre assez parlant. Le titre était « Pasigraphie, premier élément du nouvel art science, d'écrire et d'imprimer en une langue, de manière à être lu et entendu dans toute autre langue sans traduction ». On comprend qu'une pasigraphie n'est pas une écriture de langue. Elle est une écriture qui représente des idées ou des concepts. À cet égard, il est faux de croire que l'écriture ne peut être qu'une représentation de la langue. Nous pouvons contester cette définition du dictionnaire Larousse des sciences du langage. L'écriture est une représentation de la langue parlée au moyen de signes graphiques. C'est un code de communication au second degré par rapport au langage, code de communication au premier degré. Que dit donc cette définition ? Elle nous dit que l'écriture est une représentation de la langue parlée. Or, l'écriture peut représenter d'autres choses que la langue parlée, comme un geste, un espace, une musique ou une idée. On peut penser par exemple aux travaux de Rodolphe Laban sur l'écriture de la danse. Et la suite de la définition n'est pas plus satisfaisante. Il y est dit que l'écriture est un code de communication au second degré par rapport au langage, code de communication au premier degré. Or, l'on sait qu'il ne s'agit pas d'une loi générale. Il existe en effet des écritures qui sont des codes de premier degré, c'est-à-dire qui ne sont subordonnées ni à la langue ni même au langage. Ce sont les pasigraphies. Dans ce cas, la langue parlée, c'est la langue parlée qui devient secondaire. Et lorsque la langue parlée devient secondaire, on nomme cela une pasilalie. La pasilalie, c'est l'oralisation d'une pasigraphie. Alors, si Memu invente le terme de pasigraphie, ce n'est pas lui qui invente le concept. Déjà au XVIIe siècle, Descartes notait « Toute l'utilité que je vois qui peut réussir de cette invention de langue universelle, c'est pour l'écriture, à savoir que l'auteur de l'invention fit imprimer un gros dictionnaire en toutes les langues en lesquelles il voudrait être entendu et mit des caractères communs pour chaque mot primitif qui répondissent au sens et non pas aux syllabes, comme un même caractère pour aimer, amarrer et philaine. Et ceux qui auraient ce dictionnaire et sauraient sa grammaire pourraient, en cherchant tous ces caractères l'un après l'autre, interpréter en leur langue ce qui est écrit. » Donc Descartes rêve en quelque sorte de cette pasigraphie déjà en 1639. Descartes ne croit pas en la langue parlée universelle, mais il croit en la possibilité d'une langue écrite universelle. Alors, maintenant je voudrais entrer quelques instants dans ce qu'on peut appeler la mécanique des pasigraphies et dire que on peut distinguer en quelque sorte trois grands types de pasigraphies. D'abord, ce qu'on pourrait appeler les pasigraphies de signalisation. Alors, ces pasigraphies de signalisation, quelles sont-elles ? On peut dire qu'elles transmettent des signes-signaux qui ont une fonction d'indication et d'orientation de l'action. Elles peuvent transmettre des messages indicatifs ou prescriptifs. Leur vocation est essentiellement fonctionnelle. Elles répondent à un besoin précis dans un contexte particulier. On peut penser à cet égard au code international des signaux maritimes. Deuxième catégorie de pasigraphie, ce qu'on pourrait appeler les pasigraphies d'information, qui sont des systèmes visuels ayant pour fonction de transmettre des informations, donc, qui peuvent être très diverses. On peut les trouver dans le monde culturel, social, sportif, médical ou encore scientifique. Contrairement aux pasigraphies de signalisation, leur vocation est bien plus descriptive que prescriptive. On peut penser à ce système graphique qui est l'isotype, qui fut inventé dans les années 1920 par Otto Neurath, mais aussi par Marie Neurath et Gerd Hans. Troisième catégorie de pasigraphie, les pasigraphies, alors là le nom est plus difficile, mais j'ai eu plus de mal à les nommer, mais en quelque sorte on pourrait les appeler les pasigraphies complètes ou les pasigraphies de lecture. Alors, quelle est la mécanique de ces pasigraphies ? La mécanique, c'est finalement, ce sont des systèmes graphiques pouvant traduire a priori toutes les idées. C'est dans la mesure où elles ambitionnent de pouvoir traduire graphiquement tout ce que l'on peut souhaiter exprimer que nous les disons complètes, à la différence des précédentes dont l'ambition est limitée. Ces pasigraphies complètes peuvent être analogiques ou arbitraires, mais dans tous les cas, il est essentiel qu'elles puissent être assimilées aisément. Elle partage en ce sens l'exigence des langues artificielles, pouvoir être apprises rapidement et facilement. On doit par exemple à un inventeur autrichien et sémioticien qui s'appelait Charles Bliss une pasigraphie de ce type, le système Bliss. Alors, de signalisation, d'information ou complète, les pasigraphies peuvent encore être de trois sortes. D'abord, elles peuvent être arbitraires, donc nécessitant un apprentissage obligatoire. Je pense par exemple ici à la pasigraphie de Wilkins. Lorsqu'elles ne sont pas arbitraires, elles peuvent être, partiellement arbitraires, nécessitant ce qu'on pourrait appeler une sorte d'apprentissage minimum. Je pense ici à la pasigraphie que créa dans les années 1960 Jean Eiffel. Et lorsqu'elles ne sont pas ni arbitraires ni partiellement arbitraires, on peut trouver une troisième catégorie de pasigraphie qu'on pourrait appeler motivée, c'est-à-dire a priori non arbitraire, et donc ne nécessitant en théorie aucun apprentissage. Ici, j'expose la pasigraphie d'un artiste chinois contemporain qui s'appelle Xu Bing. On aperçoit donc que ces écritures utilisent soit des protocoles inédits de lecture et d'écriture. On peut penser à la pasigraphie que créa Leibniz, qui était basée sur les chiffres arabes et les mathématiques. Soit des signes nouveaux. On pense encore à la pasigraphie que je montrais de Wilkins, qui sont des signes qui étaient totalement inventés, qu'on ne connaissait pas. Ou encore des signes issus d'une hybridation de signes visuels existants. C'est ce que fait notamment Jean Eiffel, car il construit sa pasigraphie à partir de signes déjà existants et connus dans différents milieux. Alors je voudrais préciser une chose sur les pasigraphies, en particulier sur celles que l'on considère souvent comme les premières, en tout cas comme les premières construites dans l'idée d'en faire une pasigraphie au XVIIe siècle en particulier. Celles-ci, selon moi, n'étaient pas véritablement des pasigraphies. En effet, si l'on prend le mot pasigraphie au pied de la lettre, une pasigraphie doit être pour tous, autrement dit accessible à tous, intelligible à tous. Or, les premières créations pasigraphiques étaient plutôt ce qu'on pourrait appeler des oligographies, c'est-à-dire des écritures pour quelques-uns, en réalité pour un très petit nombre de personnes. Qui étaient ces quelques-uns ? Les lettrés, qui au XVIIe siècle devaient représenter moins de 5% de la population européenne. Et en réalité, à l'intérieur de cette catégorie de lettrés, quelques philosophes qui, comme Leibniz, estimaient qu'une langue écrite pourrait restituer mieux qu'aucune langue les grandes idées de la philosophie. Alors qu'est-ce qui me permet de dire cela ? Au moins deux choses. D'abord, l'ambition de ces premiers pasigraphes philosophes. Elle n'était pas démocratique mais élitiste. Il ne s'agissait pas de créer un système qui permette à tout le monde de lire une langue écrite, mais de créer un système qui permette aux plus grands esprits de l'époque de mieux penser. Ensuite, le deuxième point, c'est la difficulté d'acquisition de ces systèmes d'écriture. Une écriture pour tous qui serait incroyablement difficile à comprendre et à connaître serait-elle encore une écriture pour tous ? Je ferme cette parenthèse. Alors, pour aller plus loin dans cette présentation des pasigraphies, je souhaite maintenant anticiper sur une question que mon exposé suscite peut-être chez un certain nombre d'entre vous. Ces projets d'écriture universelle ne sont-ils pas voués à l'échec ? C'est en tout cas ce que pensent certains. Je me propose donc de réfléchir avec vous aux raisons principales qu'ils mettent en avant pour justifier leur perplexité à l'égard des projets de pasigraphie complète, et notamment des pasigraphies donc, de lecture et des pasigraphies complètes. J'en vois cinq pour commencer, mais il y en aurait d'autres dont on pourrait parler. Alors une pasigraphie serait impossible car le contexte est indépassable dans la création graphique. Une pasigraphie est impossible car aucun système graphique n'est universel. Une pasigraphie est impossible car aucune forme graphique ne peut être transparente. Une pasigraphie est impossible car elle est toujours condamnée à venir de quelque part. Une pasigraphie est impossible car elle ne peut restituer la complexité d'un langage qui ne se résume jamais à un seul plan de signification. Alors que répondre à ces objections ? Ici, je ne peux faire que des réponses rapides, mais je me permets de m'y essayer. Alors prenons la première objection. C'est sans doute un philosophe, Jean-François Lyotard, qui l'a le mieux exposé lorsqu'il notait dans l'un de ses textes qu'il a consacré au graphisme, l'objet graphique est de circonstance essentiellement, inséparable de l'événement qu'il promeut, donc du lieu, du moment, du public, où la chose arrive. Alors on peut se demander si ça signifie qu'aucune forme graphique ne peut dépasser une circonstance donnée. Est-ce à dire en effet qu'une forme graphique est condamnée à être située ? Force est pourtant de constater que de nombreuses formes graphiques ou systèmes graphiques échappent de plus en plus aux circonstances temporelles et spatiales. Quelques signes que nous connaissons tous s'imposent dans de très nombreux endroits du monde et échappent complètement à leur contexte de création. Qui sait par exemple que le fameux idéogramme du cœur fut inventé au XIVe siècle en France ? Il faut croire... Descartes ne le connaissait pas encore visiblement, mais en tout cas, est-ce qu'il est si important de le savoir pour comprendre cet idéogramme ? Bien d'autres signes pourraient être donnés en exemple. Sur la question de la supposée impossible universalité d'un système graphique ou plus généralement d'une image. Là, on peut se référer, là, en l'occurrence, je me réfère à un historien de l'art connu, que vous connaissez, qui s'appelle Nelson Goodman, et il explique, à juste titre, que le lisible ou le réalisme sont relatifs, c'est-à-dire déterminés par le système de représentation qui sert de norme à une culture ou à une personne donnée à un moment donné. Et bien sûr, son propos est juste et même très intéressant. Mais est-ce à dire pour autant que les formes graphiques ne peuvent jamais dépasser les frontières culturelles ? Beaucoup d'entre nous seraient pourtant capables, à Londres, à Berlin, à Moscou, à New York ou à Sydney, de reconnaître un panneau stop, mais aussi bien d'autres signes du code de la route. Ces processus d'internationalisation, qui datent pour le code de la route des années 1960, s'ils ne fonctionnent pas toujours et jamais parfaitement, n'en demeurent pas moins souvent efficaces et de plus en plus efficaces. Qu'aucune image ne puisse être véritablement universelle, car il sera toujours possible de trouver dans le monde des gens qui ne pourront les comprendre, ne signifie pas pour autant que toutes les propositions de systèmes graphiques transculturels soient vaines ou inutiles. L'efficacité peut être très forte, bien que non absolue. J'en viens à la troisième objection, la question de la transparence. Et là, je me réfère à un sémiologue belge qui s'appelle Jean-Marie Klinkenberg. Et Klinkenberg a raison, lui aussi, de noter qu'il ne peut y avoir d'écriture transparente. Cependant, un signe qui n'est pas totalement transparent est-il pour autant opaque ? Je crois que ce serait un raccourci trop rapide. Car si la transparence parfaite n'existe pas, faut-il pour autant cesser de tendre vers des formes de neutralité visuelle ? Et d'ailleurs, on n'est pas obligé d'être dans des formes de neutralité visuelle. Par exemple, le graphiste Bruno Munari envisageait même que des signes graphiques transnationaux, transculturels, puissent être poétiques. Ça, vous pourrez trouver ça dans son livre L'art du design. Ou L'art et le design, je me souviens plus du titre en français. Quatrième objection, celle qui concerne la dimension ethnocentriste d'une création à vocation internationale. Effectivement, une création, on peut lui reprocher de venir toujours en quelque sorte de quelque part. Et c'est effectivement un vrai problème et qui n'est pas nouveau. Je vais faire un petit détour par un exemple historique. Avant le 19e siècle, chaque pays avait son propre code maritime, ce qui suscitait forcément des mécompréhensions dommageables à tous les niveaux, en tout cas pour les bateaux qui naviguaient ensemble de par le monde. Et au début du 19e siècle, des Français créèrent un code très efficace qui répondait à tous les besoins de la communication maritime. Ce code, il s'appelait le code Reynolds. Seulement, ce code avait un gros défaut, celui d'être français. Et les Anglais, en particulier, ne purent l'accepter, et donc il fut jeté, en quelque sorte, aux oubliettes de l'histoire. Le code, mais ce besoin d'un code maritime international, commode et pratique, persista. Il se fait même sentir plus que jamais. Alors, c'est une commission anglo-française qui fut chargée de préparer un système de signaux propres à être adopté par toutes les nations maritimes. Ce fameux code a été adopté en 1864 et c'est le code international des signaux maritimes qui est encore utilisé aujourd'hui de par le monde. Ça, c'est l'ancien code donc, qui avait été inventé au début du 19e siècle, celui qu'on voit par des Français. Donc, quelle a été la solution trouvée ? Ça a été ici celle d'une coopération, alors en l'occurrence à l'époque une coopération entre deux pays. De nos jours, une coopération entre deux pays serait sûrement jugée insuffisante. Il resterait donc à élargir la coopération et à travailler collectivement. Nous pouvons noter qu'il existe aussi des systèmes adoptés presque internationalement et qui ont été inventés dans des endroits précis du globe et sans que cela ne gêne personne. Pensons par exemple aux chiffres arabes, qui furent en fait inventés par les Indiens vers 300 ans avant notre ère. Personne, et à juste titre, ne crie à l'ethnocentrisme indien ou hindou à propos de cette invention, qui est d'ailleurs une pasigraphie comme nulle autre pareille. Cette invention a transcendé son lieu d'origine pour s'ouvrir au monde magnifiquement. Alors j'en viens à la dernière critique, que je souhaite vous soumettre. Celle qui consiste à reprocher à la pasigraphie sa pauvreté langagière, son incapacité supposée à exprimer le langage dans sa complexité. C'est une critique que formule par exemple un sémiologue, le professeur Basso Fossali. Et ici encore, je trouve cette critique très juste. Il est vrai que les langues sont d'une grande richesse qu'il est difficile d'égaler. Seulement, n'oublions pas que cette critique peut concerner tout type d'écriture. Rousseau, par exemple, ne parlait pas d'une pasigraphie, mais bien de notre écriture alphabétique, lorsqu'il notait à son propos que cette écriture altère la langue, qu'elle n'en change pas les mots mais le génie, et qu'elle substitue l'exactitude à l'expression. Son influence, disait Rousseau, sous son influence, la langue est devenue progressivement incapable de permettre une communication authentique entre les hommes pour n'être plus qu'un instrument d'information et de mensonge. Donc, en quelque sorte, la critique des écritures n'est pas nouvelle, elle a même très souvent eu lieu dans l'histoire par Rousseau et par d'autres grandes figures. Les écritures, en quelque sorte, ont survécu à ces critiques. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est l'idée que je ne crois pas non plus qu'il faille demander à une pasigraphie d'égaler les langues parlées. Ce n'est pas sa vocation et ça n'a jamais été sa vocation. Une pasigraphie, c'est ce qu'on appelle un système auxiliaire de communication, c'est-à-dire que c'est un système complémentaire. Elle n'est pas là pour remplacer les langues, mais précisément pour les compléter. Une pasigraphie ne doit pas être une écriture conquérante ou impérialiste, comme il a pu en exister dans l'histoire, mais une écriture qui vient en effet aider et compléter les autres écritures et les autres langues. Quelle peut être alors la vocation d'une pasigraphie ? Je dirais qu'une pasigraphie est typiquement un projet des Lumières. Sa vocation est d'aider les humains à communiquer entre eux. Et ce n'est pas une mince ambition ou un projet secondaire. On peut s'étonner qu'à l'heure où nous sommes capables de faire des choses incroyables, aller dans l'espace, naviguer sur Internet, créer des systèmes informatiques capables de battre les humains au jeu de Go, ou encore soigner des maladies hier incurables, on peut s'étonner donc et regretter qu'on ne soit toujours pas capable de communiquer universellement au moyen d'un système graphique cohérent et fonctionnel. Donc voilà, c'était la dernière chose sur laquelle je voulais insister. L'idée que la vocation d'une pasigraphie est d'être un système complémentaire. Merci de votre écoute.